Radio Campus. Radio Campus.
88.3.
Radio Campus. Radio Campus.
Très à la mode en ce moment, chic, de bon goût.
Radio Campus. Radio Campus.
Avez-vous autre chose à dire, monsieur l'écrivain tout nu, ou pouvons-nous continuer notre route?
Radio Campus. Radio Campus.
Ce sont des êtres humains à part entière. Ils sont là pour permettre d'atteindre un nouveau stade de développement spirituel.
Ça alors, c'est incroyable.
88.3.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la tuerie au palais de la
Sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il provoque une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
C'est un bâton rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Merci à vous d'être à l'écoute de cette nouvelle édition de notre émission hebdomadaire d'info. Ce mardi, dans le cadre du festival Ondulation, un festival sur le numérique créé par la valeureuse rédaction de Radio Campus Orléans. Merci Erwan. C'est la deuxième édition cette année. Nous sommes en direct depuis le Bouillon, salle culturelle de l'Université d'Orléans. Nous parlons des Human Tech Days, rendez-vous annuel impulsé par la région Centre-Val de Loire pour stimuler l'écosystème numérique régional. Nous en parlons avec Guillaume Crépin, conseiller régional délégué auprès du président de région chargé du numérique. Nous allons aussi découvrir le Fun Lab, acronyme de Fabrique d'usage numérique. Nous en parlons avec Catherine Lenoble, la directrice. Je l'ai eu au téléphone hier. Le Fun Lab et la Labo Média Orléans organise un festival au mois de juin. On aura l'occasion d'en parler. Pour nous accompagner pendant toute cette émission, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table Mathieu Exbraya. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Vice-président numérique. Hein.
C'est bien ça.
Voilà.
Et pédagogie innovante.
Pédagogie innovante. C'est bien pour ça que on se dit tu, vous ?
Oui, pas de problème.
Que tu es là. Frédéric Moal est également là.
Bonsoir.
Frédéric Moal, vice-président chargé de la vie des campus.
Tout à fait.
Mais c'est pas ce titre, on se dit tu, parce qu'on se connaît également, c'est pas ce titre qu'on t'a invité, mais pourquoi pas, quoique. Mais tu es aussi enseignant-chercheur en informatique.
Tout à fait.
Et le numérique, tu t'y connais, on aura l'occasion également d'en parler. Nos deux chroniqueurs du tonnerre, Victor, bonsoir.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Et Steven.
Bonsoir Hassan.
Un bâton rompu, c'est jusqu'à 20h. Merci d'être avec nous.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Nous allons commencer cette émission par parler de l'enseignement du numérique à l'Université d'Orléans. Mathieu Exbraya, on en parle, tout le monde le dit, tu es déjà venu dans cette émission pour en parler. Il y a des formations d'excellence à l'Université d'Orléans. On va commencer par le plus simple. Enfin, c'est quoi ? Ça commence par le première année, deuxième année, licence.
Oui, alors nous avons des formations à différents niveaux. Alors effectivement, si on parle tout de suite de post-bac, il y a la licence d'informatique. Oui. Il y a également le BUT informatique, donc à l'IUT, également en 3 ans. Et puis si on passe à l'étape suivante, donc en bac plus 4 et 5, il y a donc plusieurs masters. Alors, il y a le master d'informatique, il y a le master MIAGE qui est particulièrement connu dans la région. Au-delà, oui, c'est un réseau national et avec une bonne visibilité et une grande ancienneté. Il y a également d'autres formations. Il y a par exemple le Master MSI qui propose du numérique de manière plus fonctionnelle, plus appliquée à certains domaines. Il y a également un DU autour de l'IoT.
C'est quoi ?
Alors l'IoT, c'est l'Internet of Things. Donc c'est quelque chose qui est opéré à Polytech. Il s'agit donc de former les étudiants à la fois à l'aspect matériel de capteurs et puis également à toute la chaîne de traitement de l'information recueillie sur ces capteurs pour obtenir à terme des traitements de type intelligence artificielle pour des aspects prédictifs ou également du pilotage de tout domaine qui est équipé en capteurs.
Bref, une formation à haut niveau en tout cas.
Et oui, une formation de plus à haut niveau.
La professionnalisation des étudiants, je ne te demande pas de chiffres, mais en sortant d'informatique à l'Université d'Orléans, on trouve du boulot facilement ?
Oui, alors c'est un domaine en tension actuellement, le numérique. Donc effectivement, les étudiants qui sortent... aujourd'hui encore, je dirais que par rapport aux formations universitaires, on a quand même essentiellement des débouchés à Bac plus 5. Yeah. Mais effectivement, les diplômés de Bac plus 5 trouvent, sauf exception et choix personnel, un emploi très rapidement.
Mais il faut nous en parler. La fac de droit, le DEG, ils font les beaux dès qu'ils ont, des chiffres. Mais pas vous, pour qu'on ne le sait pas ça.
Ah, c'est peut-être une déformation professionnelle des informaticiens.
Oui, peut-être. Hein. Frédéric Moelle, toi, tu es ou toujours enseignant en Miage ou pas ?
Ah oui, j'ai été directeur des études de la Miage pendant pas loin de 15 ans. Et je continue à enseigner en Miage en informatique.
Ouais. Ce sont des étudiants qui sont formés pour aller en entreprise après Bac plus 4-5 ?
Bac plus 5, c'est un master en fait, Miage. Oui. Ouais. Sachant que la particularité de la Miage, à Orléans en l'occurrence, c'est de proposer une formation en alternance en master. Donc c'est relativement intéressant pour les étudiants de pouvoir être rémunérés pour faire leurs études.
Bien sûr.
Avec un taux d'insertion qui est de 100%. Voilà.
Sérieux ?
Ah, tout à fait. Ouais.
Ah ouais.
Et il y a une vraie tension actuellement sur les métiers du numérique. Avec justement, alors la Miage d'Orléans a plus de 40 ans, donc on a un certain recul. On a créé des liens très forts avec l'écosystème local dans le numérique. Et ils nous demandent de former plus d'étudiants. Mais voilà,
ben oui.
C'est compliqué de former plus d'étudiants. Et il y a un vrai partenariat avec l'écosystème local, notamment des spécialisations en Master Miage qui ont été montées en collaboration avec les industriels locaux. Donc voilà, depuis 40 ans, ça fonctionne très très bien. Il y a le Master Informatique de la même manière. Bref, tout va bien. Il nous faudrait juste plus d'étudiants et surtout beaucoup plus de femmes.
C'est vrai.
Dans le numérique, okay. Oui, tout à fait.
On en parlera tout à l'heure. Mathieu ?
Oui, juste en complément de ce que disait Frédéric, en termes de diplômés en Master 2, on est à, suivant les années, on va dire entre 70 et 110 étudiants à peu près qui sortent de nos formations. Donc c'est pas négligeable.
Ah mais carrément pas.
Et je voulais aussi rapidement ajouter que dans les formations qui devraient ouvrir prochainement, il y a également une formation qui s'appelle c'est Geodata, si je me souviens bien, l'intitulé, donc qui est avec une application forte à l'aspect géologique et géomatique du numérique.
Steven ?
Non, ce que je me posais comme question, c'est que moi, mes amis qui sont en Miage, ils me disent souvent que ce sont les conditions d'accès à la formation qui sont compliquées à réunir. C'est assez exigeant pour entrer en Miage.
J'irai pas jusque-là. En fait, il y a une offre de plus en plus pléthorique en formation en informatique, surtout dans le secteur privé où finalement c'est devenu un business. Et du coup, c'est pas si compliqué que ça de rentrer en Miage par rapport à, on va dire, le nombre de places qui sont offertes. Après, il faut évidemment, comme c'est proposé en alternance, en particulier en master, évidemment trouver une entreprise qui vous accueille, donc passer un certain nombre de tests d'entretien pour voir si ça match.
Quand tu dis alternance, c'est ça qu'on appelle l'apprentissage ou pas ?
Oui, alors l'alternance, c'est une modalité dans laquelle les étudiants sont à moitié en entreprise, à moitié en formation à l'université. Il y a deux formes d'alternance. Il y a l'apprentissage qui a une limite d'âge pendant lequel on peut être apprenti. Et il y a une autre modalité, des contrats de professionnalisation, pour être précis, où le rythme est le même, mais le statut n'est pas tout à fait le même, c'est plus de la formation continue.
Et l'apprentissage à l'Université d'Orléans, c'est quand même quelque chose d'assez important.
De plus en plus.
De plus en plus, oui.
Ouais, ouais. Alors ça offre, je vais remettre ma casquette de VP Vie des Campus, oui. J'y vois un gros avantage, c'est le fait que les étudiants soient rémunérés. Mmh. Et on a de plus en plus d'étudiants qui ont des problèmes de financement de leurs études. Et c'est vraiment, je dirais, la voie royale pour cela, parce que ça permet de leur assurer finalement un revenu pendant leurs études. Donc on a beaucoup d'étudiants qui arrêteraient leurs études s'il n'y avait pas cette modalité-là. Mmh.
Dans l'enseignement, à proprement parler, vous faites quoi ? Il y a du codage, je sais, on va revenir tout à l'heure aux filles. J'ai pu suivre une après-midi de codage réservé aux filles et elles étaient ravies d'être là, des collégiennes, des lycéennes. Vous faites ça, vous faites de l'analytique et du codage ?
C'est très varié suivant les enseignements. Alors effectivement, dans des choses un peu plus éloignées du codage, il y a des modules d'intelligence artificielle, il y a, pour revenir au codage, du codage standard et puis de la programmation haute performance, un petit peu d'aspect compréhension de la machine et mise en pratique d'un réseau. C'est très, très large.
Mmh. Et les filles, pourquoi elles sont moins nombreuses dans... notamment dans le codage.
Alors,
vous avez une explication tous les deux ou pas ?
C'est la grande question. Mmh. Il y a une vraie problématique initiale au lycée, je dirais. Déjà, dès le départ, ça commence mal. Il y a beaucoup d'étudiants, notamment, qui passent par l'IUT d'informatique et qui rejoignent ensuite les formations en master. Et j'avais souvenir d'un chiffre complètement hallucinant. Il y a une année, en fait, quand je m'occupais encore de l'entrée en miage en L3, sur les 100 étudiants inscrits en première année de but, il y avait une fille. Mmh. Et donc, comme il y a beaucoup d'étudiants, à l'époque, ça s'appelait encore le DUT, qui continuaient dans nos formations de miage ou d'informatique, évidemment, quand le point de départ, c'est ça, c'est très compliqué de remonter la pente. On peut mettre en place ce qu'on veut pour favoriser l'intégration des filles, mais... on ne peut pas rattraper un tel... Donc il y a une vraie problématique qui est liée aux choix qui sont faits dès le lycée, en fait.
C'est un problème qui, peut-être... Ouais, voilà, qui vient des lycées, peut-être, non ?
Même encore avant, hein, même au niveau collège, apparemment. C'est-à-dire que les choses qui sont un petit peu envisagées actuellement, c'est d'aller dans présenter les oui. études dès le niveau collège. Oui.
Ça serait une bonne idée, je pense. Victor ?
Oui, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'informatique, dans les années 70-80, ce n'était pas du tout considéré comme étant un métier porteur. Et du coup, c'était un métier qui était extrêmement féminisé. Notamment, genre, je crois, sur lors des lancements des fusées Apollo, etc., il y avait beaucoup de femmes qui codaient pour pouvoir envoyer sur la Lune des vaisseaux spatiaux. Et c'est vrai qu'on se demande ce qui s'est bien pu se passer pour que ce soit masculinisé à ce point-là. Quoi.
Parce qu'on gagne beaucoup d'argent et donc, du coup, les hommes ont dit attends, les filles, tu vas rester à la maison.
Alors, ça, c'est une des explications, je demande à voir, sur le fait qu'à partir du moment où un métier est valorisé, dans tous les sens du terme, les hommes se l'approprient et prennent la place. Quand j'ai commencé à m'occuper de la filière miage, donc en tant que directeur des études en l'an 2000, on était à 50-50.
Ah.
À l'époque. Ça n'a pas duré longtemps, parce que justement, le recrutement se faisant en troisième année de licence, au fur et à mesure, en fait, on a vu l'évolution des dossiers déposés. Il y avait de moins en moins de filles, mais de manière simple, c'est parce qu'il y avait de moins en moins de filles qui rentraient en BTS, en DUT informatique. Et donc, mécaniquement, même en favorisant les filles, on n'y arrivait plus. Quoi. Mmh. Donc, il y a eu une vraie bascule dans les années 2000. Je pense que c'est aussi lié, peut-être, à l'image que véhicule l'informatique. Où,
les geeks, quoi.
Ouais, exactement. Ça s'est un petit peu répandu dans la population en disant, un informaticien, c'est quoi ? C'est l'informaticien de Jurassic Park, un gros à lunettes qui mange de la pizza et qui renverse son coca sur le clavier. Quoi,
voilà. C'est ça. Ça, c'est une fausse image.
C'est une image, mais complètement fausse.
Mais je vous vois tous les deux. Et d'ailleurs, nous sommes filmés, messieurs, dames, des auditeurs. Nous sommes. Erwan est là, tu me confirmes, nous sommes sur YouTube. en direct en ce moment. Connectez-vous, si vous voulez. On parlera tout à l'heure, en fin d'émission, hein, du numérique responsable, parce que les deux interviews que je vais diffuser dans l'émission en parlent. Mais j'avais aussi une autre question sur ce qui se passe avec les autres, l'Université de Tours. Nous sommes écoutés sur Radio Campus Tours. Et l'INSA, hein, c'est ça, c'est les trois. Alors, vous aviez lancé des projets, notamment DEAL, pour toi. Où on en est de ce projet? C'est Digital Learning Lab?
Tout à fait, oui. Alors, c'est un projet qui vient de se terminer, en fait.
D'accord.
Il y a eu 6 éditions. L'idée de base était assez simple. C'était que les étudiants travaillent non pas sur des projets un peu bidon proposé par des profs, le tic-tac-toe ou autre, mais travaille sur des projets concrets, réels, donc les sujets étaient proposés en particulier par des entreprises, mais pas que, des labos de recherche également. Et donc l'idée là, c'était de réunir des équipes qui pouvaient être pluridisciplinaires avec des étudiants d'informatique, évidemment, c'était des projets numériques, mais aussi des étudiants d'autres domaines, comme de la fac de lettres, par exemple, de la fac de droit, de polytech, ainsi de suite. Et donc c'était un projet à l'époque sur un appel à projet du ministère qui s'appelait Disrupt Campus, dans lequel on a été lauréat. Et on a fait travailler ensemble des étudiants de l'INSA Centre-Val de Loire, de l'Université de Tours et de l'Université d'Orléans, avec 150 à 200 étudiants tous les ans qui travaillaient ensemble dans une joie commune.
Mais vous avez
plaisir à voir.
Vous avez démarré à une époque où on opposait l'Université d'Orléans et l'Université de Tours. Qui se tirait dans les pattes apparemment à l'époque, mais vous avez réussi ça en plus avec l'INSA.
Oui, c'était un beau projet, avec une vraie volonté de travailler ensemble qui se perpétue. Là, on vient de valider notre convention de coordination territoriale. Il y a de plus en plus de projets qui se montent au niveau régional avec nos trois établissements.
Des projets en cours, Mathieu, sur ces trois...
Oui, alors, sur ces trois établissements. Et le CNAM aussi, on a par exemple le projet Pro 3 qui recouvre différents aspects, qui est dans un réseau de projets nationaux autour des démonstrateurs de l'enseignement supérieur sur le numérique, avec des dimensions justement numérique responsable, mais également apporter des outils aux étudiants pour travailler dans différents lieux, différentes conditions, favoriser l'hybridation des enseignements, améliorer l'innovation pédagogique. On travaille aussi sur les open badges, qui sont quelque chose qui... Je ne sais pas si tout le monde connaît les open badges. Le système de l'open badge, en fait, consiste à proposer des sortes de certificats numériques attestant que quelqu'un a une compétence. Alors c'est un petit peu orienté, on va dire souvent soft skills, c'est-à-dire nous on le voit plutôt en complément de ce qui est dans les formations. Et donc l'idée est d'apporter des choses qui peuvent être déployées par exemple sur un réseau social comme LinkedIn, indiquant qu'on a validé une compétence complémentaire à des étudiants notamment. Mais ça peut être aussi ouvert à d'autres publics.
Si je vous posais maintenant la question qui pique, vous formez des étudiants pour qu'ils aillent dans des trucs de... Des gens qui gagnent de l'argent, là, ou pas? Meta, mets-toi bien, tout
est-ce
ça.
Est-ce que vous envoyez des gens à l'armée?
Oui, non, mais vraiment, c'est une vraie question, parce qu'on va parler du numérique responsable, il y a des choses pertinentes qui se font. Mathieu fait partie du conseil numérique régional, je sais que vous travaillez dessus, mais est-ce que ce sont des questions que vous posez ou pas?
Alors, en fait, pour être clair, ça rejoint un petit peu les idées reçues sur qu'est-ce que c'est qu'un informaticien. On envoie des gens partout. Sur à peu près tous les domaines. On envoie aussi des gens à l'armée, puisqu'ils cherchent beaucoup d'informaticiens, mais pas que. Bref, vraiment, vraiment dans tous les domaines. C'est, comme l'a dit Mathieu, c'est vraiment un vrai métier en tension, mais partout dans le monde. Donc on a un certain nombre d'étudiants qui décident de s'expatrier. Donc là, en ce moment, il y a la mode du Québec qui revient, il me semble, et où ils sont très en demande. Enfin bref, ils ont en général aucun problème pour choisir. C'est là où je vois le gros intérêt pour les étudiants. C'est eux qui choisissent.
Ouais. Mais on va raconter maintenant une histoire, parce que moi je la connais. Tu me l'as raconté quand tu étais professeur. Tu t'es retrouvé un jour à New York avec des étudiants à toi de l'Université d'Orléans, avec des gens comme Google, qui passaient de chambre en chambre pour essayer de récupérer des projets. Cette histoire, elle est assez emblématique, je trouve, de ce qu'est devenue la formation en numérique. Raconte-la toi.
Alors, c'est un concours mondial qui est lancé tous les ans par Microsoft, en fait, qui organise ça. Je sais même pas si ça continue. Il s'appelle l'Imagine Cup. L'idée, c'est de réunir un certain nombre d'étudiants venant du monde entier et de les faire créer des projets autour du numérique, évidemment, avec Microsoft. Et donc là, cette année-là, j'avais un... c'était les prémices de Deal, on avait encore ce qu'on appelait les projets industriels, et j'avais deux étudiants qui avaient travaillé sur l'accompagnement des enfants autistes en proposant une application qui leur permettait, pour ceux qui n'arrivent pas à parler, de construire des phrases à base de pictogrammes en s'appuyant sur une tablette tactile. Donc c'était assez innovant, ça a été remarqué, ils ont proposé leur projet dans le cadre de l'Imagine Cup. Et ils ont gagné
une médaille
d'or.
L'Université d'Orléans, croyez-moi. Voilà. Il y a quelques années, hein, c'était ça.
C'était en 2011, si je me souviens bien. Et donc, ils ont été invités à l'Imagine Cup à New York, sur Times Square. J'ai évidemment dû les accompagner pour les surveiller.
Les affres d'être professeur.
Tout à fait, on a une vie très difficile. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant, la cérémonie de remise des médailles avec Eva Longoria dans un théâtre géant. C'était vraiment impressionnant, de très bons souvenirs.
Mais oui,
et les
ça,
étudiants
le sait pas
avec
plus,
des étoiles plein les yeux.
Ah ouais. Ouais. On ne le sait pas non plus, l'Université d'Orléans en tout cas. On va passer maintenant au Human Tech Day. Avant, une question à Mathieu. Le Conseil numérique régional, c'est quoi et qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que vous y faites?
Alors, le CERNUM, Conseil régional du numérique, c'est une structure qui s'est un peu créée en complément avec le Conseil national du numérique. Et qui a été renouvelé il y a à peu près un an de cela, avec l'idée de faire échanger des personnes venant du milieu associatif, du milieu professionnel, du milieu de la formation autour du numérique, et de se focaliser sur quelques sujets porteurs, on va dire, dans le domaine du numérique. Par exemple, on s'intéresse au numérique responsable, mais également à l'IA et à ses aspects éthiques, ou encore justement à la féminisation des métiers du numérique. Donc c'est un certain nombre de thèmes de travail sur lesquels il y a des sous-groupes à l'intérieur du CERNUM et puis des animations qui sont réalisées au cours de l'année.
Et vous organisez également le Human Tech Days, c'est l'édition 2024 jusqu'au 1er juillet. C'est un événement créé par la région Centre de Val-de-Loire en 2019 autour des structures numériques locales. Guillaume Crépin, vice-président, il est... conseiller régional délégué auprès du président chargé du numérique. Il devait être avec nous, mais il se passe que la ville de Bourges, dont je crois qu'il travaille à la mairie là-bas, il accueille aujourd'hui le Human Tech Day. Donc je l'ai rencontré il y a quelques jours pour nous dire ce que c'était le Human Tech Day et parler aussi notamment du conseil numérique régional. Écoutez-le.
Chaque année, on a un début d'année très tourné sur les questions du numérique. On a des rendez-vous autour des assises de la cybersécurité. On a des rendez-vous sur la question du numérique responsable. On ne peut pas faire un numérique qui consomme la planète. Et on a les Human Tech Days. C'est un bouillonnement d'initiatives sur tous les territoires. Sur toute la région Centre-Val de Loire, c'est des associations, c'est des collectifs qui se mobilisent, c'est des communes qui proposent tout simplement de venir découvrir l'application du numérique dans le champ culturel, dans le champ économique, dans tous les domaines. Et donc l'idée, c'est de faire vivre ce numérique qui maintenant est dans toutes nos vies. Que ce soit dans nos vies de jeunes, de lycéens, que ce soit dans nos vies au travail, dans nos entreprises, dans les créations culturelles aussi, où le numérique est partout, et puis dans nos vies personnelles, parce qu'on peut faire des visios avec sa famille à l'autre bout de la France et à l'autre bout de la planète. Donc vraiment, cette idée, c'est de se dire, le numérique, c'est une opportunité incroyable pour le développement personnel, l'épanouissement de chacun, le développement économique, pour le développement des artistes, pour le fait qu'ils puissent être vus partout dans le monde. Mais en même temps, ça pose un certain nombre de questions. La question de la fracture du numérique. Est-ce que tout le monde a vraiment accès au numérique, à ces outils? Comment les utiliser au mieux? On sait qu'on a 20% à peu près de la population qui est en marge du numérique, ce qu'on appelle l'électronisme. Et donc, nous, on veut lutter contre ça. On est très mobilisés. Et l'idée de ces Human Tech Days, c'est de dire le numérique, oui, mais avec l'humain au cœur de son développement. Et l'humain, ça doit passer pour toutes et tous et sur tous les territoires.
Un petit mot d'histoire quand même. Créé en 2019. Oui. Et quand c'était créé en 2019, est-ce que vous étiez élu déjà
à l'école? Non, pas encore. Pas encore. Bon. Moi, j'ai hérité de ce beau bébé, les Human Tech Days, et on en prend soin. Parce que, et on continue de construire finalement un collectif en région. Un collectif d'acteurs qui sont mobilisés depuis des années sur ce domaine et pour qui c'est un coup de projecteur. C'est un coup de pouce financier, hein, puisqu'on accompagne financièrement bon nombre des initiatives qui ont lieu chaque année, mais c'est aussi un coup de projecteur et c'est une communauté. C'est se sentir partie prenante de cette communauté qui fait le pari vraiment résolument optimiste d'un numérique qui peut être la solution à un certain nombre de défis de notre temps, un défi environnemental, le défi démocratique, citoyen, le défi climatique, j'en ai parlé, de nombreux défis. Le numérique peut être une des solutions, mais il doit être maîtrisé. Et pour ça, eh ben, ça demande de la formation, ça demande de l'information, et puis ça demande tout simplement aussi de croire en l'avenir, hein, et puis de s'inscrire et d'aider finalement aussi tous les porteurs de projets, toutes les forces vives du territoire régional avec qui on organise ces Human Tech Days.
Vous parlez de numérique responsable hein, pour cette édition. Est-ce qu'on est bien pourvu en région? Vous parliez de porteurs de projets. Est-ce qu'on est bien pourvu en termes de numérique, entre guillemets, responsable?
Il faut sans cesse remettre le travail sur le métier, l'ouvrage sur le métier. Mais on a des acteurs. On a Emmaüs Connect. On a un certain nombre d'acteurs qui sont dans la filière du réemploi. Aujourd'hui, la région les accompagne. Finance la structuration de cette filière. On a des entreprises qui jouent le jeu dans quelques jours. Le Crédit Agricole va remettre plus de 300 ordinateurs à Emmaüs Connect pour que ça alimente finalement la filière du réemploi et que après reconditionnement, ils puissent être mis à disposition, notamment de jeunes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur portable neuf. Voilà. Mais ce que je veux, et j'étais il y a quelques jours au Blanc, j'ai remis à des jeunes de la mission locale cet ordinateur reconditionné. Ils étaient fiers. Ils étaient fiers non seulement parce que c'est un outil qu'ils vont pouvoir utiliser, mais ils étaient fiers aussi parce qu'ils portent la conscience d'avoir, par cet outil reconditionné, participé à sauver un peu la planète. Et honnêtement, voir des jeunes porteurs de cette conscience, qui vont être des ambassadeurs, qui vont expliquer à leurs copains qu'il ne faut pas être finalement soumis aux diktats des grands groupes qui nous expliquent qu'il faut changer de téléphone portable tous les ans. Et il faut regagner notre souveraineté, regagner la maîtrise de notre destin. C'est nous qui pouvons collectivement faire en sorte qu'on lutte contre finalement cette course effrénée à la consommation qui peut conduire à la mise en danger de notre planète. Et donc le numérique responsable, c'est d'abord un geste de consommateur conscient, et ça c'est possible, on peut le faire. Et puis c'est aussi, après, en effet, des filières qui doivent se mettre en place pour du début de la chaîne, de la collecte jusqu'au reconditionnement et au redéploiement, ça doit se mettre en place. Donc la région accompagne financièrement cette structuration. Et puis c'est aussi penser différemment le numérique. C'est de se dire, est-ce que là, la plus-value du numérique est suffisante ou est-ce que c'est superflu? Et donc, finalement, c'est repenser notre façon de faire. Honnêtement, le numérique est extraordinaire. On l'a encore vu il y a quelques jours à Vivatech. Il y a des start-up de la région qui sont extraordinaires et qui sont des pépites pour demain. Mais en même temps, il faut tout le temps remettre l'humain au cœur. Et ça, c'est la spécificité de la région Centre-Val-de-Loire. C'est ce que dit souvent le président Bonneau. Nous, on souhaite le développement du numérique, mais toujours avec une finalité, c'est que l'épanouissement de l'homme et les femmes de la région Centre-Val-de-Loire.
Vous vous êtes entouré, vous les élus, je parlais, d'un conseil numérique de région. Quel est son rôle à ce conseil?
Alors, il faut dire que c'est unique en France.
Oui, absolument.
C'est unique en France. Absolument. Il existait un conseil national du numérique. On a souhaité le décliner en région. Le rôle de ce conseil régional du numérique, c'est d'accompagner finalement le conseil régional dans l'analyse de la situation sur le numérique, les grands enjeux. On ne souhaitait pas les définir tout seul, en chambre, en huis clos, entre élus qui s'intéressent, mais on voulait être accompagné par les acteurs qui font le numérique en région. Et donc on les a rassemblés, on leur a proposé d'écrire avec nous la feuille de route du numérique en région Centre-Val-de-Loire. On leur a proposé d'être partie prenante, d'animer avec nous les grands moments de l'année du numérique en région Val-de-Loire. Les Human Tech Days, ils en sont les organisateurs. La plupart du temps, ils sont les organisateurs. Donc vraiment, cette idée, c'est de faire en sorte que c'est eux qui sentent les tendances. C'est eux qui sentent qu'il faut travailler sur l'intelligence artificielle, qu'il faut être sur les supercalculateurs, qu'il faut travailler sur les data centers. Et donc finalement, c'est cette écoute des acteurs du territoire qu'on a organisé. On a une cinquantaine de membres, hommes et femmes, à parité, venant de tous les territoires, venant de tous les secteurs économiques, culture, recherche, et on les rassemble et ils sont à nos côtés pour relever les défis de demain.
Au moment où nous diffusions cette interview, M. Crépin, il y a un événement Human Tech Day à Bourges, votre ville, c'est pour ça que vous n'êtes pas en direct avec nous. Qu'est-ce qu'on y voit ça a été décliné dans plein de villes, toutes les grandes villes
dans toutes les villes-préfectures, on a fait ces places du numérique. C'est des moments très importants, notamment pour la jeunesse. Le message qu'on souhaite porter à la jeunesse, c'est ce message d'optimisme, de dire qu'ils vivent, eux, complètement avec le numérique. Ils vivent complètement avec le numérique. Mais un, ils n'en maîtrisent pas complètement les usages. On le voit sur des cas de cyberharcèlement, de violence, qui passent du monde réel au monde virtuel et qui heurtent dans le monde réel. On le voit aussi dans les métiers. Ils ne se projettent pas forcément dans les métiers du numérique. Le numérique, il est partout. Et donc, finalement, ils peuvent en faire leur métier, leur profession. Et donc, il y a des organismes de formation qui sont là pour leur en parler. Il y a les secteurs du e-sport. Il y a les secteurs on travaille aussi autour des fake news, par exemple. Très important sur les désinformations. Donc, qu'ils soient vraiment cette idée pour la jeunesse de notre région, c'est de leur dire le numérique est une opportunité incroyable, mais maîtrisez-le. Maîtrisez-le. Vous pouvez en faire votre métier. Et puis dans votre vie de tous les jours, soyez maître de ce que vous écrivez, de ce que vous diffusez, questionnez, ayez l'esprit critique, soyez un citoyen avisé, que ce soit dans le monde réel ou dans le numérique.
Une dernière question, quel est votre rapport avec l'Université d'Orléans, ou plutôt les deux universités, puisque cette émission est diffusée également sur Radio Campus Tours? Quelles sont vos relations?
Ce sont des acteurs très très importants du Conseil Régional du Numérique, j'en parlais tout à l'heure, de nos partenariats sur le domaine du numérique. Par exemple, on a participé au déploiement de la fibre partout en région Centre-Val-de-Loire. La région Centre a financé notamment dans les zones les plus rurales où les acteurs privés n'étaient pas présents. Et puis récemment, on a créé ce qu'on appelle une fibre noire qui relie en fait tous les sites de formation, de recherche, tous les lycées de la région, les universités, les antennes des universités, pour avoir un réseau dédié à très très haute capacité. Et donc ça, on l'a fait avec les universités. On travaille sur la création d'un data center régional qui permette de collecter, de sécuriser les données, notamment publiques, de nos institutions. Et donc ce sont vraiment des acteurs à part entière. On travaille main dans la main avec eux sur tous les sujets finalement du numérique, et ils nous accompagnent depuis le début.
Merci Monsieur Crépin, j'espère que la prochaine fois vous viendrez en studio rencontrer nos chroniqueurs et chroniqueuses, étudiants.
Ce serait avec plaisir, et je m'excuse encore une fois de ne pas être là physiquement, mais par les ondes on peut tout faire.
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Dans le cadre d'Ondulation, nous sommes en direct depuis Le Bouillon, la salle culturelle de l'Université d'Orléans. Nous parlons de numérique. Quelques petites choses pour, débattre autour de ce que nous avait dit Monsieur Guillaume Crépin. J'ai noté qu'il y avait cette fibre noire. Je sais pas. Moi, j'ai fait oui de la tête, mais c'est quoi? Quand j'étais en interview, oui, je sais. Mais
en fait, c'est une fibre optique, c'est-à-dire que en fait, une fibre noire, c'est une fibre dont on achète pour un certain nombre d'années l'accès direct, et elle est appelée noire parce qu'elle n'est pas l'achat initial ne comporte pas la partie éclairage de la fibre, c'est-à-dire la diffusion d'informations dessus. Donc, cette seconde partie est rajoutée dans un deuxième temps. Et en fait, ça permet d'être quelque part, d'une part d'avoir des fibres optiques très performantes et d'être un petit peu moins dépendant d'acteurs qui fourniraient le service d'accès.
Dans ce que fait la région centre également, on a parlé d'Emmaüs Connect. Et l'Université d'Orléans.
Ça rejoint un petit peu tout ce qui vient d'être dit sur la mobilisation de tous les acteurs autour du numérique, mais pas que dans la région centre. Et en particulier l'Université d'Orléans, de Tours et l'INSA Centre-Val-de-Loire. Il y a un projet qui a été, un appel à projet vie étudiante qui a été lancé par la région pour la première fois cette année, qui s'appelle AVEC. Et en fait, en partenariat donc avec Emmaüs Connect, nos trois établissements d'enseignement supérieur ont proposé un projet qui a été accepté pour équiper nos étudiants en ordinateurs portables reconditionnés, donc avec un cercle vertueux à ce niveau-là. Donc pour les deux années à venir, c'est en train d'être mis en place. Là. Il y a 1600 ordinateurs portables reconditionnés qui vont être à disposition de nos étudiants, de nos trois établissements, à des tarifs évidemment solidaires ou gratuits.
C'est très bientôt.
Pour défiant toute concurrence.
Oui, tout à fait. Gratuit, c'est difficile de le faire pire. Mais il y a un vrai écosystème qui est en train de se construire avec des vrais partenariats qui sont noués. Et je dois avouer que c'est très vertueux, en fait. Tous les acteurs se sont mis autour de la table et ont monté des projets vraiment super intéressants. Et je pense que de ce point de vue-là, ça rejoint un petit peu le CERNUM unique en France au niveau de la région Centre-Val-de-Loire. Cette mutualisation et ce travail commun et ces échanges sont vraiment intéressants au niveau de la région.
Moi j'avais une question par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur justement il y avait toute cette partie sur la consommation consciente. Est-ce que dans les formations que vous dispensez à l'université, c'est des choses qui sont abordées, ces questions de consommation, de la façon d'utilisation du numérique?
Alors, est-ce qu'il y a des réflexions dessus? Jusqu'à maintenant, c'est assez implicite. Par contre, à partir de la rentrée prochaine, tous les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'offrir un volume d'heures en licence autour du développement durable, pour dire les choses simplement, et donc dans lequel on va essayer de glisser quelques mots sur l'aspect numérique, en parlant notamment des aspects énergétiques et consommation de ressources, effectivement.
Sachant que c'est un vrai enjeu dans le sens où le ministère, en l'occurrence de l'enseignement supérieur, a prévu de former évidemment tous les étudiants à partir de maintenant sur la partie développement durable, mais aussi l'ensemble des personnels de l'enseignement sup dans un premier temps, donc tous les personnels de l'Université d'Orléans dans ce domaine, mais aussi l'ensemble des fonctionnaires français sur ce domaine-là. Donc il y a un vrai enjeu de formation en l'occurrence.
Nous allons maintenant partir à Tours pour découvrir le Fun Lab. Le Fun Lab fabrique d'usage numérique. C'est un Fab Lab qui est situé à Tours, donc, je vous disais, et qui se bat pour l'éducation populaire. Et moi, vous savez, Victor et Steven, comment ça me plaît.
Évidemment.
Évidemment. Évidemment.
La base.
Oui, absolument. J'ai joint Catherine Lenoble du Fun Lab, qui est également au conseil numérique régional, pour qu'elle nous en parle. Et surtout, il y a un festival qui est organisé bientôt avec le Fun Lab, notamment d'autres partenaires, notamment la Labo Média à Orléans. J'ai posé toutes ces questions à Catherine Lenoble. Du 17 au 22 juin prochain se déroule le festival Redéconnect dans le cadre de Human Tech Day 2024. Pour en parler avec nous, Catherine Lenoble du Fun Lab de Tours. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Le Fun Lab à Tours, c'est un Fab Lab, un tiers lieu qui donne accès à des outils de fabrication numérique, notamment 3D, créé en 2013, c'est ça?
C'est bien ça.
Avec qui à l'origine
À l'origine, plutôt des habitants, un collectif citoyen qui avait envie de faire naître un projet comme celui-là à Tours, puisqu'il n'y avait pas vraiment de lieu dédié aux cultures numériques.
Quand on arrive sur votre site www.lafunonattaché.fr, il y a trois mots qui apparaissent: éducation, coopération, accompagnement. On va en parler un petit peu. Éducation, la FUN fait quoi dans l'éducation?
Alors, on développe et on accompagne des usages numériques dans une perspective critique, un petit peu, je dirais, dans la philosophie un peu l'éducation populaire, donc dans un atelier comme le nôtre, mais aussi comme l'atelier du coin, celui de Labo Média, on va utiliser et faire la promotion d'outils libres et éthiques en ligne. On va aussi s'interroger sur l'impact environnemental du numérique, ou chercher à faire de la documentation et diffuser de la connaissance. Donc, je dirais que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a des activités éducatives apprenantes.
L'éducation populaire, hein, c'est un mot qui revient souvent quand on voit des articles sur vous. Vraiment, vous y tenez, ça?
Oui.
Et absolument. Et formation professionnelle également? Il y a des professionnels qui viennent?
Oui. Alors après, nous, on est une toute petite structure associative indépendante, donc on n'est pas un organisme de formation, donc on est plutôt des prestataires agiles. On travaille avec des organismes de formation, justement, sur des contenus parfois un peu plus pointus.
Et il y a quelques années, j'ai vu que vous aviez reçu des élèves de l'école de la deuxième chance. Il y a quelques années, vous continuez ou pas?
Tout ça se faisait dans le cadre d'un partenariat avec la fondation Orange, donc une fondation privée, oui, qui n'a pas vocation à financer ad vitam aeternam des associations.
Évidemment.
Ça a duré 5 ans et c'était super, c'était vraiment des très beaux projets. Mais après, on est fort sollicité par des partenaires sociaux, éducatifs. Donc, on renouvelle les partenariats où on trouve à poursuivre des partenariats qui nous tiennent à cœur.
Est-ce quand vous dites que vous accompagnez également les artisans, des artistes ou des designers, c'est quoi? Et même des indépendants?
On les accompagne. En fait, le fait que, dans un atelier de fabrication, on est à la fois, on croise aussi bien des techniques de fabrication numérique et artisanale. On est là pour appuyer. On vient là en appui technique, souvent des projets, mais pas que. Puisqu'on a plein de cordes à notre arc, donc on fait aussi, on assure aussi de la médiation culturelle autour de ces projets, de la documentation, de la diffusion via divers réseaux.
Et la coopération enfin, la coopération avec d'autres, structures depuis votre création, hein, et on va parler de ce festival maintenant que vous faites notamment avec nos amis, nos frangins de la Labo Média à Orléans. Il n'y a pas que la Labo Média, hein, avec vous. Il y a d'autres structures au niveau régional.
Je dirais que finalement, on est quand même, depuis cette aventure qui a démarré en 2019, là, l'aventure de ce festival dans le cadre des Human Tech Days, on est surtout, trois structures en région, la Labo Média Orléans, l'entrepôt à Bourges et puis donc la FUN à Tours. Du fait qu'on se situe vraiment dans des intersections où on va accompagner des pratiques artistiques souvent émergentes ou indisciplinées ou hybrides, je dirais que ces trois structures-là, en région, on a vraiment cette culture commune un peu donc ce qu'on appelle des arts hybrides et des cultures numériques. Et donc, c'est ce qui nous amène assez naturellement à coopérer pour cet événement, mais pas que, puisque ça, c'est pas événementiel, mais on mène des projets aussi ensemble à l'année.
Et quand vous dites indiscipliné, vous voulez dire quoi?
Indiscipliné, c'est pour sortir de ces mots, de toutes ces cases, de toutes ces cases qui fonctionnent par discipline. Donc c'est vrai que nous, on est plutôt souvent dans des dynamiques transversales, transdisciplinaires. Et puis aussi parce qu'on a cette culture du, je dirais aussi du du détournement, du hack. On est aussi dans des perspectives critiques autour des cultures numériques. Donc oui, on est amené à présenter, à accompagner des projets qui ont des portées militantes politiques.
Eh ben voilà, je voulais le mot. Et vous le faites bien. Ouais. Hein. Voilà, je parle en fan absolu. Donc le programme, hein, c'est du lundi 17 au samedi 22 juin. Il y a des ateliers, des expos, des conférences et des concerts. On peut commencer par justement ces expos. Il y a des expositions avec des noms que je ne connais pas du tout. C'est Skip 99, Distologica, si je connaissais. Mais alors tout ça, ce sont des créateurs.
Oui. Alors comment donc en l'occurrence là, on a une expo en effet du duo de musiciens, artistes visuels Dat Politics. Oui. Qui vont présenter cette expo qui va courir sur une semaine, là, du lundi 17 au samedi 22 juin. Et en plus de ça, il y aura aussi une installation participative en partenariat avec le FRAC, sur lequel je ne serai pas en mesure de vous donner énormément d'informations, puisque c'est plutôt notre cher Benjamin, actuellement au Canada, qui a piloté un peu cette partie-là. Mais en tout cas, évidemment que dans ce foisonnement qu'est ce festival, on aime bien présenter tout un tas de formes. Il y a toujours, en effet, une place pour des expositions qui se déroulent donc en partie au BOL, au 108. Voilà, donc ça, c'est vraiment un principe qui s'est répété sur chacune de ces éditions. Et en général, on essaie de mettre en place une exposition qui va durer au moins une semaine pour qu'elle puisse être vue par un plus grand nombre. Voilà.
Toujours au 108, hein, le mercredi, il y a toute une après-midi avec de l'animation théâtralisée, de la médiation également et des conférences. On y revient, une conférence « Explorer les écosystèmes numériques possibles dans un monde soutenable » par Gauthier Roussil. Qui est-il, Gauthier Roussil ?
Qui est Gauthier Roussil ? Alors, Gauthier est designer et chercheur. Il travaille depuis plusieurs années sur le sujet de l'impact du numérique sur notre environnement. Donc ça, c'est vraiment son sujet de recherche principal. Après, il travaille aussi sur le sujet des cultures low-tech, puisqu'on l'avait notamment invité l'année dernière dans le cadre des HTD à Tours, à présenter un ouvrage qu'il a coécrit, qui s'intitule Perspective low-tech. Donc, ça, c'est pour dire qu'on a souvent, dans le cadre de la programmation du festival, une thématique autour de la sobriété numérique, ou en tout cas autour du numérique et des problématiques environnementales, puisqu'on on ne peut pas monter un festival comme ça ou être dans des ou accompagner les cultures numériques tout au long de l'année sans se poser ces questions-là. Donc on démarre le festival avec cette conférence et puis un petit concert ensuite. Absolument. À 21h le mercredi 19.
Absolument, on en reparlera. Et le lendemain, il y aura une autre conférence avec Marie Lechner sur le lithium, justement. On revient à ce que vous disiez au début, vous êtes plutôt responsable et co-responsable, j'allais dire, dans ce festival.
Oui, alors c'est des sujets, pour nous, on n'a pas l'impression d'être sur des tendances, mais plutôt sur des sujets de fond que l'on travaille depuis plusieurs années, parfois justement avec des artistes chercheurs qui reviennent sur différentes éditions, nous parler de leurs travaux. Marie Lechner est enseigne à l'École des Beaux-Arts d'Orléans, etc. Donc on crée aussi ces connexions avec des artistes chercheurs enseignants en région centre sur des sujets qui nous paraissent très importants.
De la musique, il y en aura également, hein, vous aviez dit tout à l'heure, le mercredi après la conférence de Gauthier Roussil, il y aura de la musique, jeudi il y aura plutôt un film, le vendredi, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique, il y aura une fête 01-01, toujours au 108 à Orléans.
Oui, toujours, toujours la grosse fête de la musique du 21 juin.
Eh ben, je crois que c'est là où nous serons. Et après votre interview, on écoutera justement LogX. Il y aura notamment Musique des Vivants, Katia Shirskova, Sarah Léad, Valentin Durif, Plagia, autant d'artistes que nous connaissons nous à Radio Campus. Vous, amis auditeurs, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est vendredi 21 juin, c'est toute l'après-midi, ça commence à 14h01, j'adore. Voilà, et à 17h, il y aura cette fête de la musique électronique, bricolée, codée, dansée, parce qu'on peut faire aussi, Catherine, de la musique en numérique, et en codant, et en étant militant.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait le propos. Et puis, comment dire, c'est aussi des pratiques, toujours ce qu'on disait dans ces pratiques d'éducation populaire. On invite aussi tout le monde le jeudi, le jeudi après-midi, il y aura un open atelier où justement toutes ces pratiques un peu de code, de bricodage, de hack créatif. On est aussi assez partageurs de ces. De ces pratiques.
C'est ouvert à toutes et tous, d'ailleurs.
C'est gratuit.
Il faudra s'inscrire, quand même.
Tout à fait.
Il y a un lien sur le site de la Labo Média et un lien sur le site du Fun Lab de Tours. On va revenir, Catherine, à la philosophie de tout ceci. C'est dans le cadre des Human Tech Day, je disais, et les Human Tech Day, juste avant vous, nous avons eu en interview le vice-président de la région chargée du numérique qui parlait de responsabilité. C'est d'ailleurs dans le titre de Human Tech Day 2024, un numérique responsable. Et si je vous demandais à vous de nous expliquer ce que c'est ça?
Alors, c'est vrai que comment le numérique responsable, peut-être que, comment dire, c'est un peu les propos qu'on avait au départ, c'est parler aussi de ces questions de sobriété numérique, c'est aussi chercher, en fait, ce qu'il y a de responsable, c'est peut-être chercher à comprendre, mieux comprendre en fait ce qui se cache derrière ces technologies, où elles sont dans notre paysage, comment ça fonctionne, pour mieux s'interroger justement sur ses propres usages. Et c'est vrai que ça me donne envie de faire un petit placement de produit
Allez-y carrément.
Autour de Futur Éthique, futuréthique.fr, qui est un projet né en 2020 pendant pendant la Covid, un projet porté par la Labo Média et que l'on porte aussi avec la FUN, dont on fait la promotion. Et donc, il met à disposition des outils et des services libres et éthiques en ligne. Tout ça, c'était un petit peu dans l'idée de, justement, au moment du confinement où tout le monde était sur des... plateforme propriétaire qu'on ne nommera pas. L'idée était de justement d'avoir cette réflexion et puis surtout d'être dans l'action et donc de mettre à disposition un ensemble d'outils alternatifs comme Jixi, oui, que nous pouvons être amenés à utiliser. Un numérique responsable, c'est peut-être déjà des questionnements de fond et qui n'arrivent pas que là en 2024, qui sont, comme je vous disais, Futur Éthique. Voilà, on l'a mis en place depuis 2020 et on fait la promotion de ces outils. L'idée, c'est d'accompagner les acteurs associatifs, les artistes, aussi aller et diverses structures à se tourner vers ce choix d'outils.
Est-ce qu'il vous arrive au Fun Lab à Tours d'accueillir des personnes qui arrivent et qui se disent j'ai envie de me sevrer de vous disiez tout à l'heure vous avez ceux qu'on ne cite pas ici là j'ai un usage numérique tourné essentiellement vers ça, vers le mainstream, enfin les gens qui gagnent beaucoup d'argent et ont envie de faire autre chose. Est-ce qu'on arrive à y arriver, à se sevrer de ça et arriver vers ce numérique responsable, de votre point de vue et de votre expérience, est-ce que c'est facile ?
L'idée n'est surtout pas d'être dans un côté moralisateur.
Ah non, je sais que c'est ce que vous le faites pas, ça, je le sais.
Non, la porte est grande ouverte à toutes et tous, et en effet, ça amène justement ça permet d'ouvrir un petit peu des discussions. Après, on est tous dans pas mal de paradoxes hein, quand il s'agit quand même de nos usages numériques. Donc, on essaie plutôt d'être dans la pédagogie, dans la médiation, de mettre en place des temps d'atelier ou des temps de découverte autour de ces outils. Après, l'idéal, c'est de pouvoir aussi les mettre en application soi-même dans sa propre association pour ensuite pouvoir aussi, justement, quand d'autres assos se posent les questions, on peut dire, voilà, nous, on a commencé à les utiliser, voilà les retours qu'on peut vous faire, etc. Donc, c'est d'être aussi dans de la pratique active et de la discussion ouverte sur ces sujets-là pour amener petit à petit des changements.
On va inviter nos amis auditrices et auditeurs à Tours et autour de Tours à vous retrouver. Alors, vous êtes basé où exactement ?
Alors, nous sommes encore installés sur les bords de Loire. Donc après la fac des tanneurs, il y a MAM. Ça fait 6-7 ans maintenant que l'association a un atelier là-bas. Et nous déménageons vers les bords du Cher cet automne.
D'accord. Voilà. Et bien, on tiendra nos amis auditeurs et auditrices au courant, notamment par le biais de Radio Campus Tours, sur lequel on vous écoute.
Oui,
absolument. Merci, Catherine Lenoble, d'être passée dans un bâton rompu hein, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Au plaisir de vous rencontrer à Orléans lors de ce festival Déconnect. C'est dans le cadre des Human Tech Days. Merci à vous. LogX, c'est un projet derrière Emily, une musicienne. Je crois qu'elle est polonaise d'origine, mais vit la moitié du temps à Berlin. Ce genre de musique, vous trouvez ça dans les clubs de Berlin. LogX sera vendredi 21 juin au 108 rue de Bourgogne à Orléans à l'occasion de la fête de la musique électronique bricolée, codée, dansée, organisée dans le cadre du Festival des Arts Hybrides et des Cultures Numériques. Erwan nous rejoint.
Hello.
Bonsoir monsieur.
Et tu sais quoi, je fais de la technique sans les mains.
Mais oui, non, mais je vois ça. Je vois ça parce qu'il nous a fait la technique depuis le début. Merci monsieur.
Mais de rien.
Et ce festival, on te le doit un peu hein, depuis l'année dernière.
Alors oui, le festival Ondulation, hein, pas le festival de la créativité numérique. Je n'oserais pas dire que c'est moi. Non.
Mais alors, il y a des choses qui sont passées, d'autres arrivent. Demain, il y a quoi par exemple ?
Alors, il y a quoi qui arrive ? On se redonne rendez-vous à partir de midi pour une nouvelle édition d'Écoute ta fac. À 13h, liberté et censure des médias sur les réseaux sociaux avec pas mal d'invités. D'ailleurs, on a nos chers collègues et confrères et consoeurs de CEFAC, la radio étudiante québécoise, qui sont arrivés à Orléans. Là, ils sont en train de se reposer de leur décalage horaire. Il y a 7 heures de décalage en arrière.
Absolument.
Donc là, il est 20h chez nous. Là-bas, au Québec, il est 13h. Dans leur tête, il est 13h, donc on va laisser se reposer.
Ils sont en train de déjeuner, donc.
Ouais.
À Orléans. Ils
déjeuner.
Bon, voilà, quelque chose comme ça, on va dire. Et notamment, justement, on aura demain une des personnes, un des membres de CEFAC, Axel, qui viendra parler justement de liberté de censure des médias, puisqu'en ce moment, si vous ne le savez pas, chers auditeurs et personnes très chères également autour de cette table, si vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas accéder aux pages Instagram ou Facebook des médias d'information. Voilà, il y a un blocage. Oui. Je vous laisserai découvrir ça demain à partir de 13h. On aura également Violette Voldoir, journaliste à Radio Parleur, le média des luttes sociales. Sylvain Ernaud, journaliste chargé des réseaux sociaux au sein du collectif d'investigation breton Splan. Et également, on aura la participation de journalistes qu'on a reçus en visio, en interview un peu plus tôt ces derniers jours. Anne-Sophie Novel, elle est journaliste indépendante et également autour du fondatrice du projet Les Médias, Le Monde et Moi. Et Rémi Milleret, journaliste chargé de mission sur le numérique et les réseaux sociaux au Dauphiné Libéré. C'est la grosse émission de demain qu'on vous propose à 13h. On parlera également d'EMI, comment développer l'éducation aux médias en région Centre-Val-de-Loire. Ça sera à 15h en direct également sur nos ondes.